si Chalim était compté.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lors de notre dernière émission, nous avions évoqué la célèbre bataille de Bouvines. Chacun connaît la date, hein. 1214, Bouvines. D'autant plus célèbre qu'elle va être glorifiée par un chroniqueur royal, Guillaume le Breton, dont les écrits sont mille fois repris par la suite, hein, donc dans les siècles qui vont suivre. Par exemple, au 19e, sous la plume d'Augustin Thierry, un célèbre historien, hein, sous cette plume assez magique sont glorifiés les sergents à pied et les compagnies d'archers, hein, dont celle de Nanteuil et de Crépy, qui auraient fourni, évidemment, des troupes tout à fait conséquentes pour cette victoire. Ça serait en quelque sorte l'apparition du mouvement communal. Selon cet historien, qui fut un temps professeur au lycée de Compiègne d'ailleurs, c'était un des événements, Bouvines, qui allait marquer la constitution, la création en quelque sorte, de la notion de nation française. Au 20e, en 1973, la parution du Dimanche de Bouvines de Georges Duby allait gommer cet aspect franchement nationaliste. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, j'avais rencontré John Baldwin, qui est hélas parti. C'est un spécialiste de Philippe Auguste, pardon, que j'avais eu la chance donc de guider dans Chalie. Et quand je lui parlais de cette histoire de troupes communales, il s'est arrêté et il m'a dit « Jean-Marc, c'est une couillonnade !» Bon, le propos avait le mérite d'être très simple et très clair. Un peu plus tard, Dominique Barthélémy, dans son ouvrage « La bataille de Bouvines », déclare, et on peut le croire, qu'en réalité Bouvines n'était qu'un affrontement improvisé qui aurait pu ne jamais avoir lieu. Comme il est de coutume dans les guerres féodales, les armées adverses manœuvrent en région frontalière, en se défiant en quelque sorte, sans forcément chercher le combat frontal. Hein. Donc elles procèdent par des brèves escarmouches, espèce de démonstration de force. Et à Bouvines, après ces opérations traditionnelles, finalement peu belliqueuses, chacun s'apprête à rentrer chez lui. Et Philippe Auguste s'arrête au niveau de Tournai. Oui, mais l'empereur Othon, après quelques hésitations, décide de lancer une attaque éclair sur l'arrière-garde française au niveau du pont de Bouvines. Et adviendra ce que vous savez. Gommons donc de notre esprit un affrontement semblable aux guerres sous l'Ancien Régime, encore plus aux guerres modernes. D'ailleurs, à ce sujet, il en est de même pour les tournois médiévaux. Hein, on se représente toujours les adversaires s'affrontant, chacun d'un côté de la lice et fondant l'un sur l'autre pour briser des lances. Mais en réalité, ces joutes avec lice ne seront réglementées véritablement qu'à la toute fin du Moyen-Âge. Auparavant, les tournois, c'était deux masses de chevaliers qui se rentraient dedans, pour parler vulgairement. Et pas dans le but de se tuer, non, mais dans le but de faire des prisonniers. Ça permettait de récupérer le cheval, le haume, le haubert, hein, c'était à côte de maille, le casque, et de vendre tout ça, ma foi, en échange d'une forte somme. Voilà à quoi correspondait le tournoi médiéval traditionnel. Enfin, voilà, c'était simplement une petite mise au point pour cette célèbre bataille. Mais revenons maintenant à notre chancelier, vous savez, le frère Guérin. Hein, c'est un frère hospitalier, c'est un moine soldat, un petit peu à l'exemple des Templiers, peut-être qu'ils sont plus connus que les hospitaliers. Je vous rappelle que les Templiers sont souvent représentés par deux cavaliers. Il y en a un qui est en habit sacerdotal, c'est un ecclésiastique, et derrière lui, il y a un chevalier. Ça veut dire qu'il y a une bivalence plus précisément. C'est-à-dire que ce moine est à la fois quelqu'un qui va prier pour la rédemption des péchés des hommes, en quelque sorte, mais aussi un soldat qui va défendre, évidemment, la chrétienté. Alors, notre Guérin, après Bouvines, est devenu évêque de Senlis. Il a donc la double investiture, c'est-à-dire celle du pape et celle du roi. Par la suite, d'ailleurs, il reste très proche du roi. On va le voir accompagner le prince Louis. Vous savez, je dis le prince parce que Philippe Auguste n'est pas encore mort. Et le futur Louis VIII, qu'on appellera Louis le Lion, n'est encore à ce moment-là qu'un prince. Donc Guérin l'accompagne lors de son expédition en 1219 contre les hérétiques albigeois. Il part en compagnie d'Étienne, évêque de Noyon, de Pierre, comte de Bretagne, du comte de Guignes, du sénéchal d'Anjou, de Guillaume de Roche, etc. Ils rejoignent les troupes d'Amaury de Montfort, qui restera célèbre pour son extraordinaire cruauté vis-à-vis des Albigeois. Marmande est prise, les habitants massacrés, mais Toulouse résiste. Après 40 jours d'Ost, l'Ost, c'est, l'ordre de bataille, hein, c'est-à-dire 40 jours de guerre. Eh bien, c'est fini, on a fait son travail, en quelque sorte, et le prince Louis s'en retourne, il remonte vers le nord. Avec le recul du temps, on peut dire que ce sont là des faits qui sont véritablement peu glorieux. Comme évêque de Senlis, Guérin s'occupe bien sûr des affaires ecclésiastiques, et on le voit donner des arbitrages ici ou là pour les églises ou entre les églises. Il installe les abbés, etc. Le rôle, évidemment, d'un évêque et son sceau pendant, vous savez, c'est ce sceau de cire que l'on accroche au bas d'un parchemin pour justifier de la véracité, évidemment, de ce qui est écrit sur ce fameux parchemin. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'en 1220, Guérin est vraiment le principal administrateur de Philippe Auguste. Hein. Et il continue de mettre en ordre les archives royales. Il va créer un nouveau registre et il va charger un clerc, Étienne de Galardon, hein, c'est un peu le ministre des Finances de l'époque, il est chanoine de Bourges, cet Étienne, de rédiger le registre E, qui deviendra le registre principal pendant les règnes de Louis VIII et Louis IX, et ceci jusqu'en 1247. On a longtemps pensé que la décision de ne plus avoir un trésor royal ambulant... Oui, alors là, ça demande peut-être une explication. Un trésor, là, il faut le prendre, le thésaurus, dans le sens de l'ensemble des chartes qui appartiennent au roi et sur lesquels, évidemment, on va trouver tous les accords importants qui ont été signés, mais aussi, en même temps, tout ce qui concerne la fiscalité, hein, donc les impôts et les droits qui en reviennent au roi. On a longtemps pensé que ce trésor royal ambulant va finalement être sédentarisé après la défaite de Frédéval en 1194. À Frédéval, Philippe Auguste prend, une fessée de la part de Richard Coeur de Lion. On dit alors que le roi de France aurait décidé de laisser à Paris ses chartes et tous les documents juridiques, qui fondent ses droits. D'ailleurs, ce trésor a d'abord été établi au Louvre, puis enfin à la Sainte-Chapelle, hein, dans ce bâti qu'on appelle le trésor des chartes et qui constitue le fondement des futures archives du royaume que nationalisera la Révolution française en 1794. Or, des documents antérieurs à Frédéval sont enregistrés dans le registre E dès 1185. Ça veut dire effectivement que la décision de mettre un système d'archives tout à fait pertinent avait été prise avant même cette défaite de Frédéval. Il en est ainsi, et si on reste dans notre région, d'une charte de 1185 qui concerne le siège épiscopal de Senlis. Donc, vous voyez, à chaque fois, cela conduit à chacun d'entre nous à être moins péremptoire, à être moins affirmatif en disant à partir d'eux, on peut penser que serait, à mon avis, beaucoup plus judicieux. Alors, on continue à suivre notre évêque Guérin, qui, au passage, on le remarquera tout à l'heure, était très proche de l'abbé de Chaly. Il défend d'ailleurs exactement de la même façon l'autorité papale, contre le roi de France, d'ailleurs. Et donc, notre évêque Guérin va se retrouver finalement avec Barthélemy de Roy, le seul conseiller véritablement proche du jeune roi, Philippe Auguste est mort donc en 1223. Et donc, c'est bien le jeune roi Louis VIII qui va lui succéder. Avant de mourir, Philippe II Auguste a rédigé son testament. Ce n'est pas le premier, c'est le dernier qui compte, comme on dit. On s'est longtemps demandé qui l'avait écrit. Et récemment, les travaux de Mark Smith, qui est un professeur de l'École nationale des chartes, ont permis de donner un nom au scribe. Vous ne serez pas étonné de savoir qu'il s'agit de l'évêque Guérin. Ah. L'écriture pourrait sembler inexperte, un peu hésitante. En réalité, c'est la main d'un scripteur expérimenté, mais ce n'est pas dans les formes officielles traditionnelles d'un copiste ou d'un clerc de chancellerie. Fonctionnellement, c'est une écriture de travail, à usage personnel ou privé, bref, destinée à produire des écrits de valeur transitoire. Le testament était rédigé en tête-à-tête, donc vous imaginez Frère Guérin et Philippe Auguste, sans témoin. Philippe Auguste, donc, accordant à son ami véritablement une confiance totale. C'est pour cela que je dis souvent que Guérin, c'est à la fois un homme d'église, un homme d'épée et un homme de confiance par rapport au roi Philippe. Mais quelles étaient les différentes clauses de ces testaments? Et là, André va nous éclairer et va nous lire quelques-unes de ces clauses.
Voici les différentes clauses. Dettes et réparations des torts, 50 000 livres parisis. À la reine, 10 000 livres. Au prince Louis, futur Louis VIII, pour la défense du royaume. Alors là, un espace blanc gratté avec violence.
Oui, alors là, je peux peut-être tenter de donner une explication ou simplement dire qu'on n'en a pas. Parce qu'on s'est longtemps demandé pourquoi le parchemin avait été comme ça gratté. Vous savez, sur un parchemin, on n'a pas de gomme, hein, donc on a un grattoir. Ouais. Si vous regardez le scribe, il a la plume et le grattoir. Et on a gratté, mais avec violence. C'est-à-dire vraiment, on voulait faire disparaître la somme. Pour quelle raison? D'abord, on peut s'étonner que le père donne au fils de l'argent pour la défense du royaume, parce que logiquement, et d'une façon héréditaire, il allait avoir ce qui restait effectivement du trésor royal. Les explications sont multiples, aucune ne semble véritablement justifiée. En tous les cas, vous voyez, on arrivait à trafiquer un petit peu les documents officiels à cette époque.
À son frère, Philippe Urepel.
Alors, son frère, ce n'est pas tout à fait son frère, hein, c'est son demi-frère.
D'accord, parce que fils de Philippe Auguste et d'Agnès de Méranie, c'est ça?
Tout à fait, oui.
10 000 livres. Au roi de Jérusalem, aux hospitaliers et aux templiers, 14 000 livres. Au même, pour la défense de la Terre Sainte, 301 000 livres. À l'abbaye royale de Charenton, 2 000 livres. Aux pauvres orphelins, veuves et lépreux, 21 000 livres. Aux serviteurs du roi, 2 000 livres. À Saint-Denis, les joyaux de la couronne. À l'Hôtel-Dieu de Paris, une rente d'une livre parisis par jour, ce qui, sur un taux d'intérêt de 5%, par exemple, reviendrait à un capital de près de 7 500 livres. Total, 410 000 livres sans les rentes et joyaux.
Alors, c'est difficile de comparer les sommes. Disons que c'est une somme assez modeste. On dirait presque un testament d'un évêque assez puissant. Hein. En tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a de très fortes sommes qui sont consacrées à la défense de la Terre Sainte. Alors, directement ou indirectement, défense de la Terre Sainte, une subvention, comme on dirait de nos jours, pour les Templiers, pour les Hospitaliers, donc pour ces ordres militaires. Alors, on pense que ces très fortes sommes peuvent être mises en relation avec l'expérience de la croisade par Philippe Auguste. Vous savez que ce fut une campagne dont il est revenu en 191 en abandonnant précipitamment la Syrie après la prise de Saint-Jean d'Acre. C'est un épisode qui n'est pas très glorieux et comme l'a dit Robert-Henri Bautier, que j'ai eu la chance de connaître, qui était un conservateur de Chali, il semblait en quelque sorte avoir gardé un remords cuisant, voire de grandes craintes pour le salut de son âme, qui pourrait justifier donc un pareil effort posthume. Revenons maintenant à Chali et à ses bâtiments. En 1219, l'église abbatiale de Chali est consacrée. Ce ne veut pas dire qu'elle était complètement construite. Vous savez que dès le moment où il y a une partie qui est à l'abri, en quelque sorte, le chœur, l'abside, eh bien, on peut dire à ce moment-là les offices et on considère que la consécration est possible. Puis ensuite, en fonction évidemment du budget, eh bien, on va édifier la nef travée par travée. Notons quand même que l'église abbatiale fut choisie comme lieu de sépulture par 12 évêques de Senlis, depuis Amaury en 1167 jusqu'à Pierre Caillot vers 1293.
Pritur Isa.
Eh bien, parlons un petit peu de cette église abbatiale de Chailly dont vous voyez encore les ruines lorsque vous pénétrez sur le domaine. Au XIIe, quelques décennies après la fondation, hein, qui, je vous rappelle, est en 137, une première église avait été bâtie dont on sait vraiment que peu de choses. On sait simplement que dans les Chartres, il y a énormément de donations pour couper du bois. Enfin bon, on peut s'attendre évidemment à ce que ces chartes et ces donations plutôt sont liées avec la construction de bâtiments importants. Sont-ils en bois? On ne sait pas. On n'a pas de chartes pour le ramassage des pierres dans les champs. Enfin, ça reste quelque chose d'assez mystérieux sur lequel évidemment les futurs archéologues auront de quoi se nourrir. Lors de fouilles que nous avions effectuées pour mieux comprendre l'organisation de la seconde église, oui, on se posait la question de savoir quelle était la forme de l'entrée, en quelque sorte. Je parle de la seconde église, celle qu'on voit encore en ruine. Hein. Nous avons trouvé un nombre important de sépultures correspondant probablement à des inhumations dans l'abside de la première église. En quelque sorte, si vous voulez, on a gratté au niveau du porche et on s'est rendu compte en reculant qu'il y avait un nombre d'ossements tout à fait extraordinaire qui avait une forme assez particulière au niveau des sépultures. Et donc, pour l'archéologue qui était avec nous et qui est un des grands spécialistes de l'art gothique, il nous a dit, bon, je pense qu'on est vraiment dans l'abside de l'église, là où les personnages importants, les moines en tous les cas, les plus importants, étaient inhumés. Ceci dit, on s'est arrêté car notre permis de fouille ne nous autorisait pas à poursuivre. Et nous sommes respectueux, bien sûr, de ces conditions qui nous sont données. Alors, la seconde église, par contre, on la connaît un peu mieux, bien sûr, puisqu'on a les restes. Ce qui frappe d'abord, si vous voulez, c'est ce qui m'a frappé le premier quand j'ai pris la chaîne d'arpenteur, hein, et pas les lasers. 92 mètres de longueur hors tout. Hein, 92 mètres sur 46 mètres au transept. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus que la cathédrale de Senlis, qui, elle, ne fait que 76 mètres de long. La nef, si on continue à donner les dimensions, fait environ 10 mètres de large et 20 mètres de hauteur. Quant aux bas-côtés, ils font chacun 5 mètres. On peut remarquer que très souvent, dans les églises cisterciennes, on retrouve des proportions assez identiques. Je ne vais pas dire que Saint-Bernard était un architecte, non, non. En tous les cas, il y a quelque chose qui peut être noté. Si vous ajoutez la largeur de la nef avec la largeur des deux bas-côtés, vous obtenez la hauteur de la nef. Hein, donc 10 ouais. plus 5 plus 5 égale 20, jusqu'à la prochaine révolution. Et puis, voilà. La tour que vous pouvez voir, elle, culmine à 34 mètres. Cette nouvelle église abbatiale est de style gothique, on le verra. Hein. Puisque je parle du style gothique, il faut quand même dire que ce qualificatif est apparu tardivement. Et quand on disait de quelqu'un que c'est un gothique, ce n'est pas un monsieur qui se déguise avec des piercings et compagnie. Non, c'était quelqu'un au contraire qui était plutôt rustique, archaïque, comme du temps des Goths. Hein, oui. Voilà, tout simplement. Donc, ce n'est pas du tout un qualificatif valorisant. Bien au contraire, ça dénigre ce style architectural. Alors, je préférais, moi, et bien d'autres, hein, le qualificatif de francilien. Parce que si vous regardez l'implantation des églises gothiques dans le nord de la France, vous verrez que ça correspond véritablement à notre région. Alors, ce style gothique va succéder progressivement au style roman. Hein. Ce n'est pas d'un seul coup un maître d'œuvre qui va dire « Tiens, on ne fait plus de roman, on fait du gothique ». Non, c'est un peu plus compliqué. Ça correspond à une évolution économique, à des difficultés, au contraire, à des facilités sur le plan politique, un renouvellement aussi sur le plan intellectuel. Par exemple, l'essor démographique et une paix relative vont favoriser le développement économique, mais ça aura des conséquences. Par exemple, puisqu'il y a beaucoup plus de monde, et on le sait, il suffit de regarder le nombre de défrichements qui ont lieu à ce moment-là, hein, de colonies, en quelque sorte, que l'on crée, eh bien, on s'aperçoit effectivement que la population avait largement cru et qu'il fallait lui donner de quoi se nourrir. Et cet essor démographique va donc entraîner tout simplement une surexploitation des bois. Alors, il y a un exemple assez amusant. On dit que l'abbé Sugère, hein, c'est l'abbé de Saint-Denis, doit se rendre jusqu'en vallée de Chevreuse pour trouver 3 ou 4 poutres assez longues pour la construction de l'abside de son église, l'église abbatiale. Donc, même si ça fait partie de la légende, je crois là qu'il y a bien la mise en lumière de cette difficulté qu'on avait à trouver du bois d'œuvre, comme on dirait de nos jours. Hein. La pénurie de bois réduit donc la possibilité de fabriquer des grands cintres propres à soutenir des voûtes en berceau ou brisées. Hein, on a tous devant les yeux, dans les BD entre autres, des grands cintres en bois, puis au-dessus les pierres de la voûte qui reposent sur ces cintres. Puis ensuite, on enlève les cintres et la voûte tient. C'est un peu plus compliqué, mais bon, ou elle ne tient pas. En tous les cas, on n'a plus assez de bois pour pouvoir soutenir ces voûtes. Alors, il faut trouver autre chose. Vous savez que les hommes ont beaucoup d'imagination quand ils sont en situation de disette, de manque. On invente des matériaux. Tu fais de regarder ce qui se passe dans les guerres. Hein.
Oui.
Et donc là, il va se passer la même chose. Et on va donc modifier complètement l'architecture pour pallier à cette pénurie de bois d'œuvre. Il y a une autre chose qu'il faut noter aussi. Hein. Lorsque l'on va construire la voûte, la charpente est déjà construite. Hein, nous, on s'imagine qu'on est là dans une progression logique. On monte les murs, la voûte, la charpente. Non, on monte les murs, on monte la charpente, ce qui veut dire qu'on a donc un point d'accroche intéressant, là aussi, qui vient du ciel, en quelque sorte, qui vient du dessus. On va pouvoir faire descendre des échafaudages assez légers pour pouvoir permettre de continuer les arcs d'ogive. Hein. C'était simplement une petite remarque en passant. Donc, on va remplacer les lourds échafaudages traditionnels par des cintres beaucoup plus légers qui vont soutenir les arcs de la croisée d'ogive. Car là, la croisée d'ogive, c'est tout simplement un système qui permet d'avoir à la fois un cintre en pierre et en même temps, il va rester sur place et on va boucher assez facilement les 4 ou les 6 voûtins que la croisée va déterminer. Si vous voulez, la croisée d'ogive traditionnelle, si on la projette sur le sol, c'est un carré. Et sur ce carré va se croiser les deux diagonales. Et donc les arcs d'ogive vont se croiser selon ces deux diagonales. Mais les choses vont rapidement se compliquer parce qu'on va vouloir aller de plus en plus haut et de plus en plus large. Alors on va se rendre compte qu'il y a des points de faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle on va renforcer ces diagonales que je viens d'évoquer par une médiane. C'est-à-dire que la voûte n'est plus coupée en 4 aussi, mais en 6. Et l'arc qui est médian, donc, on va l'appeler tout simplement l'arc doubleau. Il va doubler. Hein, il va permettre de renforcer cette voûte qui va être divisée en 6 parties, d'où le nom de voûte sexpartite. Sur le mur du bas-côté, pour les promeneurs, ils pourront regarder encore l'alternance des piles fortes et des piles faibles. C'est-à-dire, quand vous vous promenez dans la nef, vous voyez, en allant vers le chœur, vous voyez sur votre gauche le mur qui sépare la galerie du cloître du bas-côté, et ce mur est marqué par des piles assez puissantes, puis ensuite une pile faible, puis des piles... Bon, tout simplement, il s'agit pour les piles puissantes des piles de la croisée, et la pile faible, c'est le doubleau. Donc simplement en observant le mur, on peut se dire, ben voilà, à cet endroit-là, il y avait des voûtes sexpartites, par exemple.
Hein.
Donc ça nous renseigne évidemment sur la technique qui a été utilisée. Une autre révolution au niveau du gothique vient que, si à la période romane, on utilisait des carrières en plein air, alors ça suppose qu'on transportait jusqu'au site d'édification de gros blocs de pierre qui étaient par la suite débités, donc on transportait beaucoup de pierre pour rien, hein, et on laissait sur place beaucoup de morceaux qui ne servaient à rien. Les carrières étaient ouvertes à Pâques et fermées à Toussaint, parce que ça gèle en surface, après la découverte. Donc, ça limitait évidemment le temps les temps de travail. Hein. N'oublions pas qu'à la Toussaint, si on fermait la carrière, on la protégeait de la paille hein, pour éviter la gelée. Et la révolution, évidemment, du gothique, comme pour la seconde église de Chély, c'est d'utiliser des carrières souterraines. Pour ne parler que de Chély et encore de Chély, l'intervention d'un géologue nous a permis de retrouver ces carrières. Je ne vous dirai pas où elles sont précisément. J'ai toujours peur que quelqu'un se glisse par une faille et se glisse dans ses carrières au risque d'être enseveli.
Elles existent toujours.
Elles existent toujours. J'ai eu l'occasion de les voir. Et j'y retourne bientôt.
Je
n'ai pas tout vu, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, je vais aller voir. En tous les cas, là, l'intervention d'un géologue était importante pour bien voir qu'il s'agissait bien du même banc qui était utilisé à la fois pour construire l'église et... Et ce même banc, on le retrouvait dans ces carrières souterraines. Les parpaings, donc... Alors, on appelle... Ça fait drôle de parler de parpaings. On s'imagine le parpaing de ciment. Mais à l'époque médiévale, un parpaing, ça désigne un bloc de pierre qui a 2 faces parallèles. Tout simplement. Les parpaings vont pouvoir être taillés toute l'année, puisqu'on est à l'abri. Hein, on est dans le sous-sol. Oui. Et selon des modules aisément transportables par un seul homme. Donc là, on ne va plus avoir à transporter des grosses pierres pour rien. Et on va c'est du Lego. Donc tout est prévu en carrière. C'est un jeu de Lego qui se met en place et sur chaque pierre est indiqué son positionnement. Intervient alors un personnage important. C'est celui qui va tracer les plans et dessiner, je dirais pas chaque pierre, mais presque, indiquer en tous les cas sa position. Et le grand personnage du gothique, bien sûr, c'est le maître d'œuvre que nous, on appellerait l'architecte. Alors, ne confondez pas le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye. Oui. Donc là, en l'occurrence, c'est l'abbé, c'est religieux. Et là, on nous allons retrouver un personnage important, parce qu'à cette période, l'abbé, c'est pas n'importe qui, hein, je le répète, c'est l'abbé Guillaume de Donjon, très proche de notre frère Guérin. Et ce Guillaume de Donjon allait devenir archevêque de Bourges, et un peu plus tard, Saint Guillaume. À la suite de miracles, le pape Innocent III, je crois, le béatifie en 1217, et puis le pape suivant, Honorius, le canonise en 2018. Ça a été très vite. C'est le premier cistercien inscrit au catalogue des saints. Son corps sera exposé sur deux colonnes de la cathédrale derrière le maître-autel jusqu'en 1562. Mais ses reliques furent profanées par la suite par les calvinistes et dispersées pendant la Révolution. Une côte avait été remise au collège de Navarre à Paris et un os de son bras confié à l'abbaye cistercienne de Chaly. Lorsque j'ai eu l'occasion de retrouver un inventaire, alors là on va faire un grand saut dans le temps, on va arriver à la Révolution en 1791-92, j'ai eu la chance de retrouver l'inventaire de l'église abbatiale, eh bien j'ai retrouvé l'os, en quelque sorte, de Guillaume, l'os du bras qui était conservé dans un reliquaire d'argent bien enveloppé. Mais, à un moment donné, vous savez qu'à la Révolution, il a fallu envoyer à Paris tous les objets liturgiques précieux. Et probablement que l'os de Guillaume a disparu dans la fonte du reliquaire. Et on n'entendra plus parler, évidemment, de Guillaume. Et pourtant, encore une fois, il a joué sûrement un rôle très important dans l'édification de cette église. Alors, en dehors du fait que Chaly est la première église gothique cistercienne, il faut noter que le plan de Chaly lui-même est exceptionnel. Le transept qui est hypertrophié, 46 mètres de long, comporte 7 chapelles dans chacun de ces deux croisillons, dont 4 sont hexagonales. On revient encore dans les sex-parties, vous voyez. D'autres chapelles furent édifiées par la suite le long du bas-côté, du côté ouest, parce que du côté nord, il y a le cloître, donc il n'y a pas la place. Alors pourquoi autant de chapelles? Et je terminerai là-dessus. Il faut remarquer que de plus en plus de moines sont ordonnés, c'est-à-dire qu'ils doivent dire une messe quotidienne, et pour cela, ils doivent disposer d'une chapelle particulière. Ils peuvent à ce moment-là servir des hobbies, c'est-à-dire des services religieux pour l'âme des morts, services mortuaires. Un hobby, c'est ça, c'est une messe mortuaire. Parfois, on désigne aussi le prêtre qui va dire cette messe sous le même nom. Et sur l'obituaire de Chaly, c'est-à-dire le registre des messes de mort à dire obligatoirement, je retiens au moins un, celui de l'anniversaire d'Isabelle, sœur du roi Louis, c'est Sainte Isabelle, sœur de Saint Louis, qui est fêtée régulièrement le 22 février et le 31 août.